et à toutes, merci de nous rejoindre dans la lorgnette sur un format d'été aujourd'hui. On est ici à Bracieux, on est un matin de début juillet et un drôle de bus s'est arrêté sur une des places de ce village car c'est le camion de l'info pour le nommer et on va passer un peu de temps avec ceux qui l'habitent aujourd'hui, on va en discuter. On va surtout parler de médias, d'éducation aux médias. Le sujet est vaste et passionnant. Ce camion, mes deux invités vont peut-être déjà le présenter. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bonjour.
Et présenter l'association.
Bonjour.
Qui pilote ce camion?
Alors, est-ce que je commence? Oui. Moi, je m'appelle Pierre Bonnera. Je travaille pour l'association Lumière sur l'info, donc qui est cette fameuse association d'éducation aux médias dont on va parler aujourd'hui, ouais. On développera un petit peu plus tard. Moi, je suis permanent ou quasi permanent sur toute cette tournée qui dure un tout petit peu moins de 2 mois, 1 mois et 3 semaines pour être précis, qui est une tournée nationale qu'on organise dans ce beau camion jaune que vous verrez peut-être passer sur les routes de France cet été, jaune fluo donc, avec un auvent. Comment, pardon ?
On peut pas le rater.
On peut pas le rater, ça c'est clair. À ça, sur un parking en plein brouillard, on est facilement repérable. Donc ça, c'est très agréable. Et même, on remarque que les gens sur l'autoroute se retournent sur nous carrément pour regarder ce camion. C'est un ancien food truck, en fait, qui même autrefois a servi à France Télévisions pour le Tour de France, de ce qu'on m'a dit. Donc qui est intégralement couleur de l'association, avec un bel auvent, pour accueillir les gens, parler de la presse, de la télé, de la radio, des réseaux sociaux. Chaque jour sur la tournée, nous avons la presse quotidienne du jour, du matin même, ouais. Toute fraîche. On a un peu de matériel de journaliste, on a des caméras, on a des micros, des bonnettes de micros, donc les petites mousses qu'on met sur les micros pour protéger du vent. Et de certains bruits parasites, les bonnettes de micro de TF1, on a celles de France 2, de LCI, de BFM, de France Télévisions,
de présentation, ces petites choses là, vous savez, c'est un nom,
ça s'appelle un flag.
Un flag,
comme un drapeau en anglais.
D'accord, un petit cube qu'on met sous le micro pour aussi identifier la chaîne et la station qui
c'est exactement ça. Et on a aussi donc une petite exposition itinérante, alors qu'on n'a pas pu mettre aujourd'hui, mais qui est bien présente, de la Bibliothèque nationale de France, sur la désinformation dans l'histoire. En plusieurs panneaux, et c'est très intéressant, c'est passionnant.
Et ta collègue ?
Donc moi c'est Chloé Cartier-Santino. Donc je suis journaliste indépendante, je suis originaire de Blois. Maintenant je travaille du côté de La Rochelle je travaille principalement en presse écrite. Et je me suis formée en fait à l'éducation aux médias et à l'information pour développer cette activité et pouvoir animer des ateliers auprès de divers publics de 6 à 99 ans dans des structures diverses et variées. Voilà.
On va parler évidemment de l'éducation aux médias et donc c'est le rôle de ce... Alors j'ai vu sur votre site de ce news truck, donc tu parlais que c'était un food truck, donc vous avez choisi plutôt qu'une autre appellation, le camion de la fond, un news truck, pour faire la continuité avec le food truck, donc très bonne trouvaille. Ce camion de l'info, donc c'est l'outil d'une association, Lumière sur l'info. Est-ce que tu peux la présenter, Pierre?
Oui, Lumière sur l'info a été créée en 2017, notamment par Susanna Dorague, qui est aujourd'hui vice-présidente de l'association. C'est une ancienne journaliste de l'AFP et d'Arte, franco-allemande, parce qu'on s'est aperçu, notamment en 2015, qu'il y avait énormément de rumeurs, de fausses informations qui circulaient au sujet des attentats qu'on a connus à Paris en janvier et en novembre. Et donc Susanna s'est dit, mais en fait c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça, et ça va aller malheureusement qu'en s'empirant, donc il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'est née cette idée de créer une association d'éducation aux médias qui va dans plein d'établissements scolaires, des collèges, des lycées. Au départ, on faisait surtout principalement des collèges, mais maintenant on fait aussi de la primaire, on va aussi avec des adultes pour faire de la prévention contre la désinformation et puis pour expliquer concrètement comment notre métier de journaliste, puisque c'était mon métier aussi à la base, comment tout ça fonctionne. Avec le plus de transparence possible, évidemment, parce qu'on n'est pas là pour mentir aux gens, on est là pour dire la vérité. Ça tombe bien, c'est le but du métier de journaliste en plus.
Et donc cette association Lumière fait ce tour de France avec ce camion.
Ouais.
Là, donc, on a deux personnes qui sont en train de discuter avec un troisième camarade à vous.
Ouais, qui s'appelle Florian.
Donc, qui s'appelle Florian, on le présente effectivement. Alors, est-ce que vous aviez donc une centaine, vous étiez sur Blois hier, vous aviez vu une centaine de personnes, vous m'avez dit. Qui sont les personnes, les publics qui s'arrêtent au camion ?
On a vraiment de tous les âges. Ça dépend des endroits où on est. Moi, là, ça fait la cinquième date. Donc, on était, par exemple, sur une aire d'autoroute entre Angers et Nantes. Et là, on avait des fois des familles, voilà, les parents avec leurs enfants ados ou un peu plus jeunes. Tout dépend du lieu. Là, voilà, on est au centre de Bracieux. On a des gens un peu plus âgés, mais pas que. Hier à Blois, on est tombé par hasard. On a eu un groupe de presque 40 jeunes en colonie qui avaient entre 11 et 17 ans. Donc, on en a profité pour les capter, les happer, pour leur parler un peu aussi, de leur faire un mini atelier d'éducation média, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment public très large. Et ouais, c'est le but aussi de la tournée, c'est de toucher un maximum de personnes et de tous horizons. Et de s'arrêter à des endroits où on nous attend pas du tout, quoi.
Moi, j'ai le souvenir d'une étape qu'on a fait dans l'Oise à Beauvais, comme quoi on fait vraiment le tour de France, où on a fait c'est une sorte de maison de retraite. Ils aiment pas trop qu'on dise maison de retraite, mais c'était un truc un peu dans le genre, donc avec beaucoup beaucoup de personnes très âgées, qui le midi recevaient les enfants de la crèche. Et donc en fait, on a fait une étape hybride avec vraiment le plus large possible, avec des petits enfants de 3 ans et puis des personnes âgées de 90 ans qui sont venus nous voir sur le camion. Et en plus de ça, on avait la station locale de France 3 ce jour-là qui nous a proposé de faire un duplex en direct devant la maison de retraite. Donc les personnes âgées regardaient le duplex sur leur télé depuis le réfectoire en train de déjeuner, et puis les petits étaient derrière la caméra en faisant le roi du silence avec le doigt sur la bouche pour pas faire de bruit, pour regarder comment se passait un duplex en direct. C'était génial, j'ai adoré cette étape.
L'éducation aux médias est un enjeu considérable dans l'éducation civique des publics, et notamment des scolaires. On en fait ici à Studio ZEF. Je salue Clémentine, qui est ici la chargée à Studio ZEF de ces ateliers. Il y a un enjeu donc important. J'ai l'impression qu'il y a des beaux discours, mais que ça reste quand même un parent pauvre dans le système éducatif. On éduque assez peu aux médias, même si des moyens, des appels à projet, on y répond nous ici en local assez régulièrement, sont mis en place, mais on sent que ça reste encore assez marginal dans le cycle d'apprentissage. On va parler plus pour l'instant des plus jeunes, parce que l'éducation média concerne tous les publics, mais dans les publics scolaires, ça reste encore assez marginal. Comment on peut essayer d'améliorer cette éducation en médias ?
Ouais, il faut savoir que c'est au programme en quatrième, et ça se fait aussi en troisième, en seconde, etc. Donc officiellement, les professeurs sont censés en parler. Après, c'est pas forcément le domaine sur lequel ils sont les plus qualifiés, ce qui peut se comprendre. C'est quelque chose d'assez complexe, qui en plus change un peu tous les jours avec les évolutions de l'intelligence artificielle, etc. Donc on s'est dit, les plus qualifiés pour parler d'information, ça reste les journalistes. Donc il faudrait que les journalistes puissent intervenir, comme ça se fait avec des tas d'autres choses, notamment en histoire, géographie, etc., ou dans des domaines culturels dans les établissements scolaires. C'est ce qu'on a décidé de faire avec Lumière sur l'info il y a quelques années maintenant, et ça fonctionne assez bien, je crois. Les professeurs sont plutôt contents de ce qu'on fait, sont contents de nous recevoir, et les élèves assez réactifs, assez intéressés, et voilà, ça permet d'apprendre des choses de façon un peu plus interactive, un peu plus, on va dire, moderne, par des gens directement impliqués, qui ont des histoires, des anecdotes à raconter, des anecdotes de vie, des anecdotes de rédaction, et donc voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir des professionnels directement dans les salles de classe.
Tu en fais des ateliers. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais ?
Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, je suis totalement d'accord avec lui. Et je dirais qu'en fait, pour en faire plus, faut des moyens, quoi. Faut mettre les moyens dedans.
Bien sûr.
Donc effectivement, on manque peut-être de soutien par rapport à ça. Et je pense en particulier aux coupes budgétaires du Pass Culture cette année. Alors ça ne concerne pas
aussi,
que l'EMI, évidemment.
Bien
ça sûr. Concerne voilà ça la culture en général, les actions d'intervenants extérieurs. Et ça, c'est vraiment très très dommage. donc voilà. Donc il y a besoin de soutenir l'EMI financièrement, et ça, c'est un peu compliqué. Effectivement, donc moi, j'ai déjà fait là des ateliers principalement dans des écoles primaires, donc avec des enfants du CP au CM2. Moi, j'aborde les ateliers toujours de façon très ludique, donc voilà, par des petits jeux, des petits quiz, en leur montrant des vidéos, en les faisant réagir, par des échanges, je les questionne beaucoup. J'aborde, alors l'éducation média, c'est très large, hein, on peut le faire de plein de façons différentes, et moi, je pense que un des thèmes les plus importants, c'est sensibiliser aux fake news, notamment, et à l'utilisation aussi des réseaux sociaux. Donc, essayer de distinguer voilà, le vrai du faux. Pour les plus petits aussi, déjà comprendre, en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est une information et savoir ce que c'est la différence entre une information, une opinion, une publicité, une anecdote, parce que parfois, bah, dans leur tête, voilà, ça se mélange un petit peu, ils savent pas forcément, ils ont pas encore été éduqués à ça. Donc ça, je pense que c'est la base, on va dire, de l'éducation aux médias. Et puis après, ça peut être aussi des ateliers en les faisant très concrètement, créer un petit journal, les faire écrire, expliquer comment on conçoit le journal, comment on écrit un article, le reportage, comment ça se passe, et les faire vraiment de faire des petits, devenir des petits journalistes en herbe.
Il y a un atelier, un format qu'on a développé chez Lumière sur l'Info qui s'appelle le concours Trop Mytho. Ça va faire la troisième année en septembre que c'est reconduit. C'est un vrai concours national auquel tous les 11-25 peuvent participer. Alors exceptionnellement cette année, on a même eu des enfants de 8 ans dans un centre aéré. Et donc ce concours, en fait, laisse les jeunes fabriquer leurs propres vidéos ou leurs propres podcasts audio de débunkage de fake news avec tout simplement leur matériel, donc leur smartphone, leur tablette, les ordinateurs du collège ou du lycée ou de l'école. L'idée, c'est que tout soit fabriqué par eux de A à Z. En commençant par l'écriture, par l'idée déjà de base, jusqu'à la fin du montage et jusqu'à l'envoi du produit fini par les jeunes directement sur le site de l'asso. En fait, tout est fait par eux à 100%. Alors les journalistes de l'association peuvent les coacher un peu. Il y a aussi la possibilité de participer individuellement. Et il y a une certaine créativité qu'on remarque depuis déjà deux saisons, une originalité dans les choix éditoriaux, et puis dans la mise en scène aussi. Ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment super intéressant. Et la popularité de ce concours augmente d'année en année. Cette année, on a même eu un établissement de Chicago, un établissement français de Chicago, le lycée français, qui a participé, bon, qui n'a pas été malheureusement lauréat cette année, puisqu'il y a un jury qui vote, un jury de professionnels qui vote pour ses vidéos préférées. Bon, ils ne l'ont pas emporté cette année, mais voilà. Et puis il y a des petits cadeaux à la fin en plus pour les meilleurs, dont des visites de rédaction nationale à Paris.
J'imagine que vous avez le réseau nécessaire pour accueillir des groupes, etc., dans les différentes rédactions, notamment les grandes rédactions parisiennes, qu'elles soient audiovisuelles ou de presse écrite. Est-ce que les jeunes, alors ça dépend des jeunes, les primaires peut-être pas, mais les collégiens, lycéens, on estime, et notamment ça peut être un des discours des grands médias dominants, qui sont mal informés, qui sont soumis beaucoup de fake news, etc. Est-ce que vous qui pratiquez ces publics-là dans les ateliers, est-ce que vous considérez qu'ils sont moins bien informés, qu'ils sont plus soumis à une masse énorme d'informations, ce qui, je crois, est le cas, mais est-ce que ça n'empêche pas forcément d'être mal informé?
En fait, c'est pas une question de jeunesse ou de vieillesse, c'est pas une question d'âge. Tout type de public peuvent être mal informés, tout type de public peuvent être bien informés. On constate qu'il y a des jeunes qui sont extrêmement au courant de tout ce qui se passe, qui savent très très bien les choses, même parfois autant que nous, donc c'est très intéressant. On a aussi des jeunes qui ne sont au courant de rien, ou alors qui pensent n'être au courant de rien et ne pas s'informer, alors qu'en fait le travail journalistique, il est à la portée de tous, ne serait-ce que par exemple par le sport. Beaucoup de jeunes regardent du sport, regardent du foot. Ils ne savent pas forcément que les commentateurs des matchs de foot qu'ils regardent sur beIN, Canal ou même TF1 sont des journalistes, sont des professionnels de l'information qui pourraient aussi présenter le 20h. Donc il y a ça aussi, cette remise en contexte à faire. Mais c'est vraiment pas une question d'âge, en fait. Enfin, je crois pas. Sur la tournée, on a vu aussi des personnes âgées qui sont tout à fait informées, hein, Chloé.
Oui, il y a de tout. Après, concernant les jeunes, et on va dire à partir de l'adolescence plutôt, ils sont de plus en plus jeunes à être sur les divers réseaux sociaux qui existent. Après, le risque, il y a de tout sur les réseaux sociaux. Hein. Les grands médias sont maintenant sur tous les réseaux sociaux et publient de l'information sur ces réseaux. Et il y a des choses qui circulent qui n'ont rien à voir. Donc, ils sont soumis à tout un tas de vidéos, d'informations qui leur arrivent. Et en fait, notre rôle, c'est de les aider justement à distinguer ce qui est l'information et ce qui n'en est pas, et ne pas se faire piéger dans à suivre des comptes qui transmettent des fake news. Je pense qu'il faut juste donner les clés, en fait, à ces jeunes-là pour prendre du recul sur ce qu'ils ont sous les yeux, sur leur smartphone principalement, et pas tomber dans le partage de fausses informations notamment. Mais en général, quand on leur pose des questions sur est-ce que vous savez distinguer les fake news, est-ce que vous en avez déjà vu, ils savent très bien ce que c'est, et ils ont très bien compris ce qui en est et ce qui en est pas. Ils distinguent bien l'information de ce qui n'en est pas.
Ouais, et puis je constate même que même les personnes un peu plus âgées, les adultes, savent bien faire la différence. Savent, voilà, quand il faut vérifier une information, voilà, on va aller prendre plusieurs sources. Il faut pas regarder qu'une seule source d'information, mais c'est bien d'en prendre plusieurs. Après, ils le savent. Est-ce qu'ils l'appliquent au quotidien forcément? Là, c'est encore une autre histoire.
Et donc cette mise en contexte, effectivement, la surcharge de canaux, hein, de communication et d'information, elle joue un vrai rôle. Comment, même si on peut trouver autant de fake news, alors un peu moins peut-être sur le 20h, qui ont les grands 20h qui ont des chartes déontologiques que sur TikTok, où c'est la liberté d'expression à son plus grand fonctionnement dans ce genre de sur les réseaux sociaux. Cette mise en contexte, ce recul, il est difficile à leur faire toucher. Voilà, dire que effectivement normalement à 20h sur France 2 ou sur TF1, on va être moins soumis à des fake news que sur TikTok sur Instagram.
Moi, il y a un truc très simple que j'utilise souvent, c'est de faire une comparaison par exemple avec d'autres métiers. Je leur dis, quand vous avez un problème de santé, vous allez voir un médecin parce que c'est l'expert de la santé. Quand vous avez un problème avec votre voiture, vous allez voir le garagiste parce que c'est l'expert de l'automobile. Quand vous avez besoin d'une info fiable, vous faites pareil, vous allez voir les experts de l'information, ce sont les journalistes. C'est aussi simple que ça. Après, est-ce que, et c'est ce que j'explique aussi, est-ce que tous les garagistes font bien leur travail? Pas forcément. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes en ressortant du garage avec ma petite voiture. Ça m'est arrivé aussi qu'un médecin se plante dans la prescription qu'il me fait. Ça peut arriver aussi, parce qu'on est des êtres humains, que les journalistes se trompent. C'est pas censé arriver. Mais techniquement, ça nous arrive aussi de faire des erreurs de plus ou moins bonne foi, puisqu'il y a aussi des journalistes qui font mal leur travail volontairement, ou ça dépend de quel point de vue on se place. Donc tout existe, le tout, c'est pas forcément de la méfiance, mais c'est en tout cas d'avoir toujours un peu de recul par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on lit. Voilà.
L'esprit critique aussi, s'interroger, se poser des questions quand on nous donne de l'information, avoir son propre jugement, ça c'est l'essentiel, quoi.
Traquer les Big Jim, Betty Boop, tout ce qui brille, le vent en poupe. Dénicher une bonne tête de turc, chanteurs sur leur tour, ministres en rut. Aucun problème pour trouver le prochain couillon à jeter dans la fosse au lion. Ça se bouscule au portillon. Juger, c'est contemporain. Baver, basique instinct. Tourner, rotative, faut bien vivre. Donner à manger aux molosses. son appétit féroce. Pour ne pas devenir furax, il faut que le verrasse malaxe. Que ce soit de l'info ou de la tox, de la chair fraîche ou du botox. À qui la faute si le malheur désinfait le bonheur des autres? Bankable, tsunami, délit de sale gueule, rumeur calomnie, lifting, fitness, anorexie, cantine SDF, fiscal paradis, pour rêver d'une vie plus torride, consomme effet divers et tabloïd, entre deux publicités, cœur de cible. Donner à manger en malasse, combler son appétit féroce. Pour ne pas devenir furax, il faut que le vorace malaxe. Que ce soit de l'info ou de la tox, de la chair fraîche ou du botox. À qui la faute si le malheur désinfait le bonheur des autres?
On en parle beaucoup en ce moment des outils de propagande qui ont tous les atours de systèmes d'information classiques. Est-ce que c'est des choses que vous abordez, alors soit avec les élèves, soit avec les publics qui viennent, qui se rapprochent du camion de l'info?
Oui, il faut expliquer en fait qui nous parle, tout simplement.
Même
rien qu'en France, par exemple, on ne sait pas forcément que la chaîne TF1 appartient à la même personne que celle qui a peut-être construit votre maison ou votre appart.
Ah, tu vas penser sur la concentration des médias, Pierre, j'avais prévu d'y venir.
Ah, mais pardon.
C'est pas grave, vas-y, continue.
Mais oui, mais voilà, il y a de ça aussi. Savoir que cette personne qui s'appelle Monsieur Bouygues a été un proche de Nicolas Sarkozy, par exemple, qu'il a été son témoin de mariage, et voilà, c'est intéressant. On peut aussi appliquer ça à l'international, savoir que, par exemple, la chaîne Russia Today est proche du Kremlin, voire même plus que proche, en fait, qu'elle appartient littéralement à l'État russe, et que c'est une chaîne, un média de propagande. Les gens ne le savent pas forcément, donc il faut leur expliquer, leur faire comprendre, et voilà, et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours donné. Expliquer aussi qui est, par exemple, Vincent Bolloré, que c'est un milliardaire d'extrême droite qui a racheté des chaînes parce qu'il avait un programme politique. Il a racheté la chaîne iTélé et le groupe Canal+, qui n'était pas franchement de droite à l'époque, et qui en a fait voilà l'outil qu'on connaît maintenant. Et il se trouve que CNews est la chaîne info numéro 1 sur les 4 chaînes gratuites. Donc c'est voilà, il faut le savoir aussi.
Mais c'est vrai que quand on discute là avec les gens, en général, ça revient beaucoup. De toute façon, ils catégorisent politiquement les médias, et ils ont bien conscience que CNews, c'est à droite, que à l'extrême, on va dire, les chaînes de France Télévisions essayent d'être plutôt, on va dire, neutres. Mais en tout cas, j'ai l'impression, avec les gens avec qui j'ai pu échanger, qu'ils ont vraiment bien en tête quand même que voilà, il y a des milliardaires effectivement qui détiennent des médias. Ils ont l'air plutôt au courant dans l'ensemble.
Sur ce sujet, notamment évidemment sur le sujet CNews et Vincent Bolloré, est-ce qu'on arrive à leur faire comprendre que la chaîne est finalement diffuse assez peu d'informations et fait beaucoup de commentaires? C'est une chaîne d'éditorialistes maintenant, et de débat, même s'ils sont souvent tous d'accord entre eux sur les plateaux de CNews. Est-ce qu'on arrive à leur faire comprendre que l'information elle est potentiellement plutôt ailleurs que notamment sur cette chaîne-là qui est en train de devenir la première chaîne, même si BFM et les autres sont pas exsangues, hein, voilà, sont pas plus, beaucoup plus exemplaires. On arrive à leur faire comprendre que ben il y a peut-être moins de reportages, de grands sujets d'information, d'investigation.
Bien sûr. Ouais. Oui, on arrive. Enfin, je pense que les gens le comprennent assez facilement. Et nous, ce qu'on leur dit aussi, c'est que c'est pas interdit d'aller regarder un peu ces news, un peu, mais varier ses sources d'information. Voilà, c'est ça, pas être que sur une seule chaîne ou lire un seul journal. Enfin, c'est pour avoir une vision globale de l'information et se rendre compte aussi de comment l'information est traitée selon les médias, il faut lire un peu de tout, essayer de varier les sources d'information. Ça, c'est l'essentiel.
Il y a un truc qui revient très souvent chez les jeunes. Tous les jeunes, quasiment, qui sont sur les réseaux sociaux, disent « Voilà, moi, je suis Hugo Décrypte pour les informations. » Mais je ne suis que Hugo Décrypte. Ouais. C'est-à-dire que si ce média-là... d'ailleurs, ils pensent que Hugo Décrypte est une personne. C'est peut-être qu'il pense qu'il s'appelle Monsieur Décrypte, je sais pas, ce qui n'est pas le cas. Il s'appelle Hugo Travers en vrai. Mais en fait, si Hugo Travers et Hugo Décrypte se plantent, il y a 90% des jeunes, je dis ça un peu au hasard, mais 90% des jeunes français qui vont soit relayer, soit croire une fausse information. Donc c'est dommage, on essaye de leur dire et de les persuader de suivre d'autres comptes sur les réseaux sociaux, de aussi d'aller voir les médias traditionnels parce que ça reste quand même intéressant, c'est encore majoritaire. Et voilà, mais c'est pas toujours évident, notamment et surtout dans la tête des jeunes, je pense.
Est-ce qu'il y a une... on voit, donc vous avez un kiosque ici avec les grands titres de presse, Joie Libé, Le Parisien, Le Monde, l'équipe qui traîne ici, tout ça, donc une variété assez Charlie Hebdo.
Ouais, on a la presse locale aussi, on a les journaux du Perche, on a les journaux du coin, on a vraiment de tout.
Il y en a plein. Comment la presse indépendante, et notamment je pense à celle du web, je pense à Blast, à Mediapart, etc., elle est connue, identifiée, même des streamers de Twitch, de YouTube, etc. Ils sont bien reconnus par les publics, quel qu'il soit.
Alors on n'a pas trop les streamers de Twitch, c'est peut-être encore un truc un petit peu de niche, mais régulièrement on a Blast, on a Mediapart, on a des médias écolos je me souviens on nous a cité Vers le Média, des choses comme ça qui reviennent. Donc ça reste encore très peu, mais il y en a de plus en plus, notamment on a eu à plusieurs reprises en Bretagne on a eu Splan aussi qui est un média local, je crois que c'est ça, voilà.
Sur les questions environnementales beaucoup, mais
absolument.
Pas que, en tout cas de l'investigation,
totalement indépendant. On a le Canard Enchaîné qui est tout aussi un journal indépendant qui revient souvent dans les lectures des gens. Donc je pense que ça monte de plus en plus. En tout cas, parmi les gens qu'on a rencontrés qui sont informés, c'est des choses qui suivent de plus en plus. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Chloé.
Oui, c'est ça. Ça revient. Les gens nous citent beaucoup Charlie Hebdo, le Canard dans les médias indépendants.
Le Média aussi, on a eu.
Le Média, après, ce qui revient aussi, c'est moi, je n'achète plus de journaux.
Pour quelle raison ?
Alors, je pense que c'est déjà prendre le temps, tout simplement, d'aller chez son marchand de journaux, prendre ensuite le temps de se poser,
de lire. Prendre 30 ou 40 minutes de lire un journal en entier, comme Le Monde ou
Et en fait, les gens nous disent, je suis l'information, mais sur Internet, donc avec le smartphone, sur les applis. Ça peut être les applis des grands médias, hein, puisque tous les médias ont leur application. Mais en tout cas, j'ai beaucoup entendu j'achète plus de journal ou de magazine papier, je vais plus chez le marchand de journaux.
Ce qu'on remarque aussi, c'est que les personnes âgées n'ont pas forcément pris le pli de passer en mode numérique pour les abonnements et pour l'achat des journaux. Donc là, peut-être qu'il y a une petite perte à ce niveau-là. Alors moi qui ai travaillé pendant plus de 10 ans sur les réseaux sociaux des médias d'information, j'ai bossé pour pas mal de médias nationaux, qu'en fait, les jeunes ne savent pas forcément que les grands médias sont sur les réseaux et ne s'y intéressent pas, en fait. J'ai le sentiment que ça ne les intéresse pas. Et que c'est compliqué d'aller les chercher. Donc, nous, c'était notre boulot pendant des années, ça l'est toujours. On est sur TikTok, sur Insta, vous avez aussi de l'information fiable sur ces réseaux-là, de la part des grands médias. Mais il y a peut-être... Y a une perte à ce niveau-là, ouais, j'ai l'impression.
Il préfère, pour revenir à l'exemple un peu typique de Hugo Décrypte, il préfère suivre le compte d'Hugo Décrypte sur TikTok que TF1, par exemple.
Ou alors, pas forcément le suivre, mais le regarder régulièrement, comme ça apparaît dans les pour-toi. Ou bien même, ne carrément pas s'informer avec des médias officiels et voir des influenceurs ou des amis à eux qui connaissent des informations qui ne sont pas toujours bonnes. Donc, c'est là aussi qu'il y a un problème.
Les influenceurs, c'est un sujet qui revient dans la bouche des jeunes publics.
Oui,
absolument.
Ouais. Et moi, oui, c'est vrai que j'ai déjà aussi eu des ados en atelier et justement, je leur ai expliqué la différence entre un journaliste et un influenceur. Après, ce que font les influenceurs, c'est pas forcément négatif. Hein. Le but, c'est pas de leur dire arrêtez de suivre, pas du tout, parce qu'il y a des choses qui sont très bien de certains influenceurs, mais de savoir que bah, voilà, l'influenceur derrière, il a un objectif de chiffre, de gagner de l'argent. Donc, il y a des sponsors, il y a un but commercial, des partenariats commerciaux, et ça n'a rien à voir avec du journalisme. Donc voilà, il y a aussi ça aussi à leur inculquer, en fait, qu'ils comprennent tout simplement juste la différence pour qu'ils le sachent. Quoi.
Après, dans ce qu'on fait chez Lumière sur l'info, on est beaucoup dans l'écoute, on est beaucoup dans le dialogue, etc. On n'est pas là du tout dans la critique, à dire voilà, c'est pas bien de regarder ces news, c'est pas bien de suivre Nasdaq sur TikTok ou je ne sais quoi. Nasdaq, c'est un influenceur, pour ceux qui ne savent pas. Non, au contraire, on est dans l'écoute et dans la bienveillance et dans le partage. Et donc voilà, on prend toutes ces informations-là, on essaie d'expliquer concrètement les choses et c'est comme ça que ça fonctionne.
Comment on peut réussir, in fine, à leur montrer toute la variété, toute la diversité des médias existants, qui soient donc en papier comme vous avez ici dans le camion, sur le web, les journalistes indépendants, les influenceurs. On peut s'y noyer, c'est aussi ça qui fait qu'il y a une surcharge potentielle d'informations pour les publics. Voilà, il y a un peu de ménage à faire, ou vraiment l'idée, c'est pas forcément tant de faire du ménage que d'essayer de donner un panel le plus
non,
possible.
Non, on explique quel est le panel du paysage audiovisuel et même médiatique français. Mmh. Voilà, on a notamment cette fameuse carte du monde diplomatique et Acrimed qu'on montre dans les ateliers qu'on fait dans le courant de l'année.
Elle n'est pas là dans le camion ?
Non, elle n'est pas dans le camion, on l'a pas ici. On pourrait la voir, mais on l'a pas. Donc, avec tous les médias détenus par des milliardaires, donc c'est pas les médias par indépendants. On parle aussi des médias indépendants. Ceci dit, sur le camion et sur la tournée, vous voyez, on a les bonnettes de TF1, de France Info, le flag de France 2, les caméras des journalistes, etc. Donc, et on a tout un panel de la presse quotidienne, de la presse hebdo. Donc, on l'explique par ces biais-là aussi, par la démonstration en direct et les petits objets, les goodies, etc. Maintenant, je pense que sur la tournée, les gens sont assez informés et connaissent un petit peu tout le paysage audiovisuel. C'est encore un peu différent dans les ateliers. Ouais.
Et puis, finalement, quand on sait la diversité de médias qui existent, après, chacun est libre de faire son choix selon ses appétences, ce qu'il a envie de lire, tout simplement. Quoi. Voilà, après, du moment qu'on est au courant qu'on peut avoir vraiment un choix très très large. Et on choisit un petit peu.
Il y a beaucoup de gens qui nous disent moi je regarde le journal de 20h, oui, mais moi j'aime pas parce que pour telle ou telle raison, etc. Mais pourtant, ils continuent à le regarder sur une chaîne précise. Il y a beaucoup de gens qui nous disent moi je trouve que tel journal est pas assez objectif, etc. Voilà. Bon, l'objectivité, déjà, ça n'existe pas, on essaie de leur dire. Mais en plus, on essaie d'expliquer qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un panel de journaux et de titres de presse en général très large. Et puis qu'il n'y a pas non plus que l'info dans la vie. Vous avez tout à fait le droit de mettre une chaîne pour avoir du divertissement, pour avoir des jeux, des choses comme ça, et puis il y a 6 boutons sur la télécommande, il y a 25 chaînes gratuites en France, des centaines et des centaines de stations de radio en FM et sur internet encore plus dans le monde entier. Donc voilà, il suffit de zapper si on n'a pas envie, c'est tout simplement ça, c'est élémentaire, mais il faut parfois le rappeler.
Tu parlais de radio justement, l'explosion récente du podcast a changé aussi la donne sur l'accès à l'information. On vous en parle du podcast?
Et franchement, très peu. Il y a surtout dans les grandes villes, en fait, des gens qui vont écouter des replays de France Inter, de France Culture, quelques podcasts de Slate ou des choses comme ça. Mais alors franchement...
C'est pas encore un outil d'accès à l'information.
Ouais. Non, très très peu. Enfin, en tout cas, moi j'en ai très peu entendu parler, notamment sur la tournée.
Moi aussi, non, c'est vrai qu'on nous parle pas beaucoup de podcasts de temps en temps quand on pose la question en général comment vous vous informez. Beaucoup, c'est le journal télévisé.
Ouais.
La radio, ça revient quand même beaucoup. J'écoute la radio dans ma voiture.
On entend beaucoup France Inter, France Info, France Culture.
Ça revient. Et podcast, c'est vrai que je l'ai peu entendu. Ouais.
Okay. Donc oui, est-ce que c'est vraiment le succès qu'on dit partout? Bon, on peut peut-être se permettre d'avoir un petit doute. Mais ceci dit, c'est très intéressant. Il y a une offre de podcast aussi en France très intéressante avec de l'indépendant, avec des podcasts de studio originaux.
On en revient aux streamers de YouTube en Inde qui font ça en indépendant et qui publient souvent. Je pense par exemple, moi, parce que je l'écoute un peu, à Clément Viktorovitch qui Twitch,
ouais.
Qui reposte sur YouTube et qui met en accès en podcast, donc, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de l'audio pour écouter notamment celui-là, mais plein d'autres. Effectivement, donc on voit bien qu'il y a aussi la multiplication des plateformes permet de toucher des gens qui vont plus avoir sur leur smartphone ou sur leur tablette YouTube en permanence et qui vont pouvoir les chercher, ou des gens qui ont un peu délaissé ça et qui ont juste un smartphone avec l'appli de podcast et qui vont pouvoir lancer aussi ce module là par exemple.
Oui, alors on en parle, on dit que tout existe, mais voilà, ouais, ça reste encore assez assez niche en fait. Ouais.
Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'association? Alors si, sur l'association notamment, donc vous avez un réseau national de journalistes qui, Chloé, t'en es une digne représentante puisque tu travailles maintenant plutôt du côté de Charente-Maritime.
En Charente-Maritime, ouais. Oui, exactement.
même si t'es originaire d'ici. Donc le réseau, il est étoffé sur tout le territoire.
Ouais, carrément. On a même ouvert à la rentrée de septembre, un bureau marseillais avec notre collègue et délégué général Carole Dufréchoux. Donc oui, vraiment, on est du nord au sud, de Lille jusqu'à Marseille. Lumière sur l'info est présente. On est aussi en...
Une centaine de journalistes en tout.
Carrément, ouais. Une centaine. On travaille aussi de temps en temps avec les bureaux régionaux, notamment de TF1, avec lesquels on a un petit accord, qui sont très présents, alors notamment dans le nord de la France, en Normandie et en Bretagne. Une entreprise qui s'appelle Cercle Bleu, qui est une agence de presse qui nous envoie de temps en temps des journalistes à eux. Et puis, partout en France, en fait, partout où des journalistes de l'association sont présents, potentiellement on peut faire des ateliers, ou bien sinon, on envoie quelqu'un de Paris qui se déplace en TGV. Pour rencontrer les jeunes.
Et les radios associatives alors?
Et les radios associatives, on peut aussi travailler avec elles.
C'est des partenaires que vous avez identifiés et qui peuvent donner lieu à des partenariats, des choses.
Mais carrément, on est ouvert à toutes les idées. On avait fait un truc en Bretagne avec une radio qui s'appelle Radio Laser, à Rennes, qui nous a accueillis dans un IME, un institut médico-éducatif avec plein de jeunes en situation de handicap. C'était super intéressant. On a fait une très très chouette étape dans cet endroit-là qui était super sympa. Donc on est ouvert à toutes ces choses-là, on est ouvert à toutes les collaborations, donc pourquoi pas si votre antenne souhaite
c'est pas spécialement
poursuivre
la mienne,
ça,
mais effectivement, les radios associatives sont un pourvoyeur d'ateliers d'éducation média en local, c'est pour ça que je faisais le rapprochement entre votre action qui a plutôt une grande hauteur de vue sur le territoire national.
On peut venir en complément
au maillage des radios associatives sur le territoire français.
Ouais. On a des journalistes qui bossent principalement pour des médias nationaux ou des grands médias locaux. Donc ça permet d'avoir cet apport qui peut être complémentaire totalement avec les radios associatives.
Merci beaucoup Pierre et Chloé d'avoir pris du temps pour parler du camion de l'info, évidemment, qui va peut-être être accessible aux vacanciers tous ces
mois. Vous avez toutes les dates sur le site de l'association Lumière au pluriel.info. Donc toutes les dates sont inscrites. On va aller, alors je vous les cite pêle-mêle, on va aller à Clermont-Ferrand, on va aller à Narbonne, on va aller pour la fin à Marseille. Donc il y a encore plein de choses à faire et plein de belles étapes à découvrir.
Sur les routes de France tout l'été, donc avec ce camion de l'info, on a donc parlé avec passion d'éducation média et des médias en général. Merci à tous les deux.
Merci de vous être intéressés à nous,
bonne route.
C'est très sympa.
Merci.
Bel été.